Chapitre 3. L'oncle. Grâce à Dieu, Rudy ne trouva dans la maison de son oncle que des gens faits comme ceux qu'il était accoutumé de voir. Il n'y logeait qu'un seul crétin, un pauvre idiot, une de ces misérables créatures abandonnées qui, dans le Valais, sont recueillies durant 2 ou 3 mois par une famille, puis vont passer le même espace de temps chez d'autres braves gens, et ainsi de suite. Ce pauvre être s'appelait Saperli. L'oncle était encore un chasseur vigoureux. Il s'entendait aussi au métier de tonnelier. Sa femme, une petite personne vive, avec ce qu'on appelle une figure d'oiseau, avait des yeux perçants comme ceux d'un aigle et un long cou tout couvert de duvet. Tout était nouveau pour Rudy, les costumes, les coutumes, le langage même. Mais quant au parler, son oreille d'enfant saura bientôt le saisir et se le rendre familier. La demeure de l'oncle avait un air opulent comparé à celle du grand-père. Les chambres étaient bien plus grandes. Des cornes de chamois, des carabines bien reluisantes décoraient les murailles. Au-dessus de la porte se voyait l'image de la Madone, devant laquelle brûlait une lampe entourée d'une touffe de roses des Alpes. L'oncle n'était pas seulement un des plus adroits chasseurs de chamois du pays, il était encore le meilleur guide de toute la contrée. Rudy devait être bientôt l'enfant chéri de la maison. On l'aima au moins autant que le vieux chien de chasse, sourd et aveugle, qui ne rendait plus de service, mais qui en avait tant rendu qu'on le regardait comme faisant partie de la famille et qu'on en prenait le plus grand soin. Rudy le caressait, le flattait de la main. Mais le vieux chien était mal disposé à faire de nouvelles connaissances. Rudy ne tarda pas à prendre racine, pour ainsi dire, dans la maison et dans le cœur de tous. « Nous ne sommes pas si mal ici dans le Valais, disait l'oncle. Nous avons toujours des chamois. La race n'en disparaît pas comme celle des bouquetins. Oui, tout va bien mieux aujourd'hui que dans les temps anciens. On a beau nous conter qu'ils étaient glorieux, notre époque est meilleure. Autrefois, nos vallées étaient comme séparées du monde entier, mais un grand coup a été frappé contre les murailles qui nous isolaient et un courant d'air frais est venu tout ranimer chez nous. » Et lorsqu'il était en humeur de causer, l'oncle parlait de ses années d'enfance, du temps où tout dans le Valais sentait le renfermer. Le pays était à moitié peuplé de pauvres crétins et d'autres infirmes. Mais, continuait-il, survinrent tout à coup les soldats français. C'était là les médecins qu'il nous fallait. Ils tuèrent les hommes et aussi la maladie. C'est qu'ils savaient crânement se battre. C'était de rudes gaillards. Du reste, les femmes de France les valent bien. Et à ces mots, il regardait sa femme qui était française et il riait à avaler ses oreilles. Quand ils eurent fini de se battre contre les hommes, continuait-il, ils attaquèrent les rochers. Ce sont eux qui ont construit la route du Simplon à travers les monts les plus abrupts et aujourd'hui, je n'ai qu'à dire à un enfant de 3 ans, « Va en Italie, suis le grand chemin ». Cet enfant arrivera sans peine en Italie, pourvu qu'il ne quitte pas la route. » Et sur ces mots, l'oncle entonnait une chanson française et poussait un hurrah pour Napoléon l'empereur. C'est alors que Rudy entendit, pour la première fois, parler de la France et de Lyon, la grande ville au bord du Rhône. L'oncle y avait été. « Il me semble, disait-il à Rudy, que dans peu d'années, tu pourras devenir un agile chasseur. Tu as vraiment d'excellentes dispositions. » Il lui apprit à tenir une carabine, à viser, à tirer. Il emmena chasser avec lui dans les montagnes et lui fit boire du sang chaud de chamois qui a guéri contre le vertige. Il lui enseigna à reconnaître le temps où se précipitent les avalanches, à midi ou le soir, selon la direction des rayons du soleil. Il lui montra à imiter les chamois, à sauter comme eux, de façon à retomber ferme sur ses jambes sans plus bouger. Il lui apprit encore comment, si l'on tombe dans une crevasse de rocher, on peut s'en tirer. Il faut s'accrocher avec les coudes, faire jouer les muscles du jarret, céder même de ceux de la nuque pour se retenir aux moindres aspérités. Rudy saisissait tout cela bien vite. Il sut aussi les stratagèmes dont on se sert pour duper les chamois, tout rusés qu'ils sont, et quelques soins qu'ils prennent, de se garder par des avant-postes et des sentinelles. Il vit le chasseur mettre sa veste et son chapeau sur un bâton, s'esquiver et se glisser d'un autre côté, que le pauvre chamois, attentif à la défroque, néglige de surveiller. Un jour que Rudy accompagnait son oncle, celui-ci usa de ce stratagème. Le sentier était étroit, ou, pour mieux dire, il existait à peine. Ce n'était qu'un mince rebord surplombant un précipice. La neige était à moitié fondue. Les pierres se détachaient sous les pieds et roulaient dans l'abîme. Aussi, le chasseur se coucha-t-il tout son long par terre et s'avança-t-il en rampant, ce qui n'empêchait pas de temps en temps une pierre de se dérober sous lui, de tomber et de faire mille bonds de roc en roc avant d'atteindre le fond du noir précipice. Rudy était à une centaine de pas de son oncle sur le dernier rocher solide. Voilà qu'un puissant vautour arrive droit sur le chasseur, glissant comme un ver. L'oiseau voulait, d'un coup d'aile, faire tomber l'homme pour dévorer le cadavre. L'oncle ne le voyait pas, il n'avait Dieu que pour le chamois, une femelle avec son petit, qu'il apercevait de l'autre côté de la crevasse. Rudy vit l'oiseau de proie et devina son intention. Il leva sa carabine et allait tirer. En ce moment, le chamois sursauta pour fuir, l'oncle fit feu, la bête tomba frappée à mort, pendant que le petit se sauvait, bondissant à travers les rocs et s'élançant par-dessus les précipices aussi sûrement que s'il avait eu plusieurs années. Le vautour, effrayé par la détonation de la carabine, s'envola. Le chasseur ne sut que par Rudy le danger qu'il venait de courir. Il alla ramasser le chamois. Ils reprirent alors de bonne humeur le chemin de la maison. L'oncle, tout joyeux, entonna un chant de ses jeunes années. Tout à coup, un bruit singulier se fit entendre non loin d'eux. Ils levèrent les yeux. Là-haut, sur le pic ardu, la masse de neige se soulevait, s'agitait comme une toile tendue que le vent fait onduler. La surface de glace craquait comme des dalles de marbre qui se brisent. Puis tout se rompit, se disloqua, et la masse, telle qu'un torrent d'écume blanche, se précipita, grondant comme un tonnerre sourd. C'était une terrible avalanche, elle ne venait pas sur eux, mais bien près, par trop près. « Tiens-toi ferme !» cria l'oncle de toutes ses forces. Rudy s'accrocha au tronc d'un arbre, le chasseur grimpa aux branches et s'y enlaça. L'avalanche passa à la distance de plusieurs toises. Mais le coup de vent, l'ouragan qu'elle produisit, brisa tout autour arbres et buissons, comme si c'était des joncs séchés, et les dispersa. Rudy se trouva étendu par terre. L'arbre qu'il tenait avait été comme scié par la base. La couronne en avait été lancée au loin. Là, parmi les branches, gisait l'oncle, la tête fracassée. Sa main était encore chaude. Son visage était méconnaissable. Rudy, à cet affreux spectacle, resta immobile, pâle, tremblant. Pour la première fois, il ressentait la peur. Le soir, bien tard, il arriva à la maison, apportant la terrible nouvelle. La tante ne dit pas un mot, ne versa pas une larme. Ce n'est que lorsqu'on rapporta le corps que sa douleur fit explosion. Le pauvre crétin alla se tapir dans son lit. Le lendemain, on ne le vit pas de toute la journée. Le soir, il vint trouver Rudy et lui dit « Écris une lettre pour moi. Saperlie ne sait pas écrire, mais il ira bien mettre une lettre à la poste. »« Une lettre pour toi, » dit Rudy, « et adressée à qui ?»« À notre Seigneur Jésus-Christ. »« Qu'est-ce que tu dis ?» Le pauvre idiot, jetant sur Rudy le regard le plus touchant, joignit les mains et murmura, avec autant de gravité que de piété, « Jésus-Christ, Saperlie veut vous écrire pour vous prier que ce soit Saperlie qui soit là mort et pas le maître de la maison. » Rudy lui serra la main et lui expliqua non sans peine que la lettre n'arriverait pas au ciel et ne ferait pas rendre la vie au défunt. « Maintenant, lui dit sa tante après les obsèques, c'est toi qui es le soutien de la maison. » Et en effet, c'est ce que fut Rudy.